Chapitre 12. Alexander avait consacré sa vie à ses convictions. Tout, jusqu'à son identité. Plus rien n'était à lui. Plus rien n'était vrai, sauf ses motivations. Adolescent, il avait vu le monde devenir fou, se liguer contre son peuple, se mêler de ce qui ne le regardait pas. Qu'auraient dit les Américains lorsqu'ils avaient envahi le Texas et la Californie au milieu du 19e siècle pour les voler au Mexique, si l'Europe avait débarqué pour leur faire la morale et soutenir militairement les Mexicains? Et si l'Asie était venue empêcher la France de récupérer l'Alsace-Lorraine après la guerre? Combien de pays modernes avaient reconquis ce qu'ils estimaient être une spoliation de leur héritage historique? Lorsqu'il s'agissait de la Russie, c'était bien sûr différent. Ces salopards d'Américains avaient réussi leur coup. La guerre froide était peut-être terminée depuis des lustres, mais les impérialistes Yankees ne se privaient pas de continuer à imposer leur vision de ce qui était juste et vrai aux autres peuples, à commencer par malmener les Russes. Il ne fallait pas être naïf. C'était encore les Américains qui menaient la danse. Tant qu'ils ne bougeaient pas, le reste du monde se contentait de piailler et n'agissait pas. Si les États-Unis décidaient d'intervenir, alors tout s'emboîtait le pas. Des lâches et des manipulateurs, voilà ce qu'étaient ces menteurs obèses, puissent-ils s'étouffer dans leur graisse et leurs armes? Alexander les détestait. Et pourtant, il vivait au milieu d'eux. De leur sentiment de supériorité, de leur inculture crasse, de leur manière insupportable, aux premières loges pour assister à la lente déliquescence de leur nation. L'effondrement par la bêtise, par l'autosatisfaction. Des gamins pourri gâtés à qui on avait fini par tout autoriser et qui s'empiffraient, n'apprenaient plus rien, ne s'imposaient aucun effort à l'égard des autres, surtout des étrangers, convaincus qu'ils étaient d'avoir raison à chaque fois. Et dans cette cour d'école en flammes, on avait lâché plus d'armes à feu qu'il n'y avait de mauvais élèves capricieux. Bon courage pour la suite. Pour Alexander, c'était un spectacle aussi désolant que parfois réjouissant. Lui, l'autorité et la discipline, il connaissait. Ils étaient son père et sa mère. À la sortie de la guerre en Ukraine, Alexander avait intégré les Spetsnaz, les forces spéciales de l'armée, où il avait brillé par sa détermination et son sang-froid. De là, rejoindre le FSB, les services secrets russes, nés des cendres du mythique KGB, avait presque été une évidence. La suite était plus complexe. Alexander avait toujours été un passionné d'armes. Déjà gamin, il passait des heures à s'entraîner avec du matériel d'airsoft, ces répliques simulationnistes qui tirent des billes en plastique. Sauf que les équipements les plus pointus et fidèles n'étaient pas produits dans son pays, et les customiser, les améliorer jusqu'à l'excès, n'était possible qu'en passant des nuits entières sur les forums de discussion des obsédés dans son genre. Et les meilleurs étaient en anglais. Alexander s'était mis à l'anglais rien que pour ça. Et puis, plus tard, parce qu'il avait rencontré cette fille, lors d'un voyage à Prague, son premier grand amour, une néerlandaise. Il avait dû pratiquer la langue de Shakespeare pendant 5 ans, avant qu'ils ne se séparent. Elle était trop européenne dans sa tête. Du coup, lorsque le FSB avait testé son niveau d'anglais, la base était bonne. Alexander était un bosseur et un perfectionniste, jusqu'à l'extrême. Et il avait l'oreille musicale. Il n'avait fallu que 4 années d'intense apprentissage pour parvenir à le faire parler sans accent. Bien sûr, il lui restait une légère intonation par moment, mais on pouvait faire passer ça pour du régionalisme. Et son truc à lui, c'était de dire qu'il venait d'Hawaï. Bien qu'il ait grandi à Volgograd en Russie, ses grands-parents étaient d'origine kazakh, et il en avait gardé des traits qui pouvaient le faire passer pour un Hawaïen, lequel aurait gardé une infime trace de créole hawaïen à l'oral. Le subterfuge fonctionnait à merveille. Bien qu'il haïsse les Américains, Alexander n'avait d'autre choix que de vivre parmi eux. Ils s'étaient même fait des amis à la salle de sport et au stand de tir. Il baisait une Yankee de temps à autre, et devait bien avouer que ça l'excitait beaucoup de les prendre comme les chiennes qu'elles étaient. Il lui arrivait de s'y perdre sur qui était vraiment américain et qui ne l'était que partiellement, avec ce brassage, ces sans-mêlés, ces immigrés de première ou énième génération. Mais en définitive, tous finissaient par entrer dans le moule, devenir aussi étroits d'esprit, adopter les mœurs, la mentalité et se comporter comme des abrutis. La médiocrité attire les hommes comme le pollen les abeilles. Et parmi ces rencontres, Il n'y avait personne qu'Alexander aurait hésité une seconde à tuer d'une balle en pleine tête ou à étrangler, en le fixant dans les yeux s'il le fallait, si l'ordre tombait. Sauf que d'ordre, il n'en tombait pas souvent, à vrai dire. Sa mission était de s'intégrer, se maintenir en condition, et se tenir prêt. Il devait se fondre dans le paysage, dans la nation. Se fondre, mais pas se diluer. Alors il faisait de son mieux pour obéir, et à défaut d'avoir une mission plus précise, il usait son temps et son corps à s'entraîner. Les Spetsnaz, puis le FSB, avaient fait de lui une machine de guerre. Il était hors de question qu'il perde en efficacité. Quand la sphère était apparue au-dessus de l'océan, Alexander avait fait comme tout le monde. Il avait d'abord été abasourdi, s'était intéressé à l'actualité pour en savoir plus, avant de s'interroger sur une possible manipulation du gouvernement. Qu'est-ce qui prouvait que ces images étaient vraies ? Avec la technologie, il était largement possible de les créer et de raconter n'importe quoi, juste pour prendre le contrôle de la population. Il se souvint aussitôt de sa formation. Lorsqu'on cherche à faire un gros coup, on attire l'attention ailleurs avec quelque chose d'encore plus gros, mais bidon, pour pouvoir agir plus tranquillement dans son coin. Qu'est-ce que ça signifiait ? Que préparaient donc encore les Américains ? Dans les semaines qui suivirent, il fut tenté de rentrer au pays, pour être prêt à le défendre si cela dégénérait. Mais il se retint. Il serait plus efficace ici, noyé dans l'anonymat, paré à frapper à tout moment sans qu'on se méfie de lui, sans qu'on puisse le voir venir. Mais toujours aucun ordre. Cela faisait 2 ans qu'il n'avait plus eu le moindre contact avec un membre des services secrets. 2 interminables années d'inutilité sous un nom dont il avait honte. Ici, il n'y avait plus d'Alexander. Il était Kinuel. Il aborrait ce prénom hawaïen débile. Kinyu travaillait à la sécurité d'un nightclub de Los Angeles. C'était pratique. D'abord parce qu'il avait le physique idéal, qui collait parfaitement au personnage, et puis parce que ça lui laissait du temps libre la journée. Kinyu n'était pas un gros dormeur. Il avait droit à 3 pauses dans la nuit, et la plupart, il les prenait au bar de la boîte pour profiter d'un verre et de la vue sur les filles. C'est ainsi qu'il fit la connaissance d'Anna. Une jolie brune qui dansait à s'en coller les cheveux sur le corps. Comme souvent, ça avait commencé par un contact visuel régulier. Les deux s'étaient aperçus, et les deux s'étaient toisés à répétition jusqu'à ce qu'Anna vienne commander son coca juste à côté de Kinyu. « Celui-là est pour moi », avait-il dit. Elle avait souri, mais ne l'avait pas remercié, juste regardé avec provocation, tandis qu'elle buvait à la paille, à 50 centimètres de lui. Puis elle était repartie danser et Kinyu était remonté surveiller l'entrée, frustré et un peu agacé par cette aguicheuse, une bonne garce d'américaine puritaine. Mais Anna était encore là lorsqu'il était redescendu prendre son dernier break. Et cette fois, c'était elle qui l'avait abordée. « Je m'appelle Anna. » 2 heures plus tard, elle le suivait dans son petit appartement de Vermont Square et à peine la porte fermée, les rideaux tirés, elle se dégagea au moment où il voulut l'embrasser. Un index sur ses lèvres, elle posa son portable sur la table et mit en marche un enregistrement, en poussant le volume à fond. Au bout de quelques secondes, des sons de baisers résonnèrent depuis le haut-parleur. Kinyu était sur ses gardes. Ça sentait mauvais tout ça. Il était prêt à la frapper à la gorge et à lui briser la nuque. Mais Anna l'entraîna un peu à l'écart et il se laissa faire pour mieux jauger la situation. « Au cas où la pièce serait écoutée, » chuchota-t-elle. « Valim te salue. » Un courant piquant se diffusa le long de l'échine de Kinyu. Valim Primakov était son officier traitant au FSB. Anna passa au russe, en prenant soin de toujours parler du bout des lèvres, presque contre son oreille. « C'est l'heure. Kinyuel doit disparaître. Je rentre ?»« Non, tu deviens un autre. » Elle avait attendu que des gémissements de plus en plus forts sortent de son enregistrement et lui avait murmuré la suite. Les instructions précises, qu'elle avait répétées pour s'assurer qu'il intégrait bien chaque ordre. Mais avec lui, il n'y avait pas besoin d'insister. Les mots s'imprimaient dans sa mémoire. Puis, elle avait sorti de son soutien-gorge un emballage de préservatifs déjà ouvert et le lui avait tendu. « Il y a mon ADN à l'extérieur. Jouis dedans et jette-le dans la poubelle, pas aux toilettes, au cas où. » S'ils font tes poubelles, ça fera le job. Je suis surveillée ? Je ne crois pas, mais ne prenons aucun risque. Dans ce cas, pourquoi simuler ? dit-il en posant sa main sur la hanche d'Anna. Elle le repoussa avec l'assurance de celle qui s'est répliquée physiquement et lui fit signe de s'asseoir sur le lit. Elle se posta de l'autre côté de la pièce et ils attendirent que l'enregistrement s'arrête. Anna indiqua à Alexander qu'il pouvait dormir, ce qu'il ne fit pas. Et elle patienta une heure de plus avant de repartir, non sans avoir pris soin d'arranger ses vêtements comme si elle les avait remis à la va-vite. Kinyu devait s'évanouir dans la nature, donc. Alexander soupira. Il était frustré. Elle lui plaisait bien, cette Anna. Et depuis combien de temps n'avait-il pas goûté à une vraie fille de chez lui? Mais la perspective de ce qu'il attendait avait réveillé en lui le fauve qui somnolait depuis trop longtemps. Il avait du boulot. Trop excité pour fermer les yeux, il commença à réfléchir à la suite.